RMC, les grandes gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas. Bonjour Anaïs Inès Sainz.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Une réunion d'appartement en guise de meeting de campagne et de premier temps fort ce soir pour Édouard Philippe dans sa course à l'Élysée. L'ancien Premier ministre animera donc une réunion publique depuis son salon à son domicile du Havre et retransmis en direct donc dans un peu plus d'un millier de foyers en France. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Flora?
On s'en fout pas.
Charles?
On s'en fout pas.
Jean-Loup?
On s'en fout pas.
Charles?
Non, ben je suis sceptique. Et
tu peux pas participer à cette réunion d'appartement virtuel.
Déjà, moi, quand professionnellement des clients me demandent un Zoom, tu sais,
oui.
des réunions en visio, je trouve ça insupportable. Déjà, les calls, j'ai du mal, mais alors les Zooms, c'est l'horreur. Donc, faire des Zooms pour parler de politique avec le Christophe Béchu. Je sais pas comment te dire, je pense que.
Et Jérémy Patrielletus.
On les salue tous les deux ici.
Mais oui.
C'est qui?
Bien
c'est
sûr. Messi, ce sont des gens valables.
Et on peut citer Laurent Marcangeli aussi.
Voilà. Un bon petit zoom en pleine canicule avec Marcangeli.
Bah, ce sont les futurs ministres si de la France, monsieur Bonnet.
Voilà, je
connais pas.
Je suis étonné quand même, mais bon, peut-être que je sais pas.
Est-ce que c'est moderne de faire des réunions d'appartements virtuelles, c'est-à-dire qu'au même moment, au lieu d'aller dans un appartement physiquement, voilà, il y aura 1000 appartements face à Édouard Philippe.
Bah, moi, je suis contente d'entendre parler d'Édouard Philippe parce que jusqu'à présent, sa campagne, on n'en entend pas trop parler. Donc j'attends de voir avec curiosité ce qu'il va raconter et surtout on a reçu effectivement le député Patrielletus qui nous a dit mais il a fait une heure de présentation de son plan sur l'IA. Moi j'ai pas vu, j'ai pas entendu. Donc moi les politiques qui s'adaptent pas aux nouveaux moyens de communication ils sont hors jeu en fait. Donc il faut qu'ils comprennent que comment ça fonctionne parce que il y a une présidentielle quand même au bout du chemin.
Ouais, mais est-ce que finalement là, on fait pas un faux procès parce qu'en fait, j'ai l'impression que tous les politiques sont inaudibles en ce moment. On n'a pas envie vraiment d'entendre.
Non, Mélenchon n'est pas inaudible. Excuse-moi, Mélenchon n'est pas inaudible et Bardella n'est pas inaudible.
Parce que
excuse-moi, c'est les députés du Bloc central qui sont.
Parce qu'ils ont leur candidat depuis longtemps et qu'ils sont en mouvement et qu'ils râlent.
Et qu'ils ont quelque chose à dire. Et qu'ils ont quelque chose à dire, ce qui n'est pas le cas de.
Parce qu'ils disent rien de subtil et rien de complexe, donc c'est facile.
Mélenchon, il est audible, Bardella, il est audible.
Oui, mais c'est parce qu'ils sont radicaux et qu'ils sont pas dans la nuance. C'est sûr que c'est plus facile quand tu dis tout et n'importe quoi,
bah oui.
Audible.
Tout et son contraire.
On enchaîne.
Les GG.
On m'a pas demandé mon avis.
Ah pardon.
Tu viens de le donner, c'est pas ça.
Bien sûr, j'ai dit que je m'en foutais pas. Moi je suis un peu sceptique en effet devant les soirées Tupperware de monsieur Philippe en appartement et j'ai l'impression qu'en effet avec cette promotion de Zoom, il est dans la nostalgie de sa période Covid où il était à Matignon et vous savez donc où il fallait confiner les Français donc tout faire par Zoom et je pense que monsieur Philippe était un peu nostalgique de cette grande réussite, de cette grande période de sa vie que fut la gestion du Covid et donc qui veut en quelque sorte organiser des sortes de soirées confinement avec une visio où on fera un peu tourner les tables à distance. Et par ailleurs, je remarque également que monsieur Édouard Philippe avec ses idées se giscardise parce que c'était la grande idée de Giscard à l'époque, c'était d'aller dîner chez les Français, c'était la grande mise en scène du giscardisme et donc voilà, Édouard Philippe se giscardise mais je ne suis pas sûr que ce soit un vrai signe de modernité.
Bon, les GG, en pleine canicule, les lieux culturels adaptent leurs horaires d'ouverture, évidemment, mais pas dans le bon sens, à la Tour Eiffel, qui ferme ces jours-ci à 16h au lieu de minuit 45. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Charles?
On s'en fout, franchement.
Ah bon? Jean-Loup?
On s'en fout pas.
Flora. Plutôt que de rester fermé au plus chaud de la journée et ouvrir le soir, bien non, les visiteurs pourront profiter de la Dame de Fer en plein cagnard, sous 42 degrés. Flora?
C'est pas faux parce que en fait dans les villes comme Paris qui ont beaucoup de béton, le pic de chaleur, il est pas à midi comme on a appris à l'école, vous savez que le soleil il est
au
zénith à midi, il est en fin d'après-midi parce que la chaleur elle est concentrée dans le béton toute la journée et donc vous l'aurez remarqué tout seul, c'est vers 17-18h que c'est insoutenable.
C'est vrai, et
en ce moment en plus, il y a les jours qui s'accumulent. Donc plus on avance dans la canicule, plus ça devient insoutenable.
C'est la nuit alors, parce que la Tour Eiffel habituellement ferme à minuit. Pourquoi ne pas laisser un créneau horaire de 20h à minuit où il fait quand même moins chaud à minuit?
En tout cas, 16h, 21h, c'est en ce moment les heures les plus chaudes à Paris.
Ouais.
Jean-Loup.
Non mais c'est marrant parce qu'on est un pays qui a désindustrialisé massivement, qui est en train de détruire son agriculture. On n'a plus qu'une seule ressource, c'est le tourisme. Bah oui. Et du coup, notre seule ressource, on ferme l'accès. Ben voilà, les touristes chinois ou japonais, on ferme l'accès du seul truc qui fonctionne encore à peu près en France, la dernière source de revenus.
Le monde entier veut voir.
Voilà. Combien d'années que t'es pas monté sur la Tour Eiffel, Charles?
Est-ce que tu y es monté déjà? Tout, la Tour Eiffel, il n'y a pas pire qu'un appartement vu Tour Eiffel. Faut vraiment être con pour aller voir la Tour Eiffel. Non, pardon, je l'ai dit à l'antenne.
On enchaîne.
Les touristes chinois ne nous écoutent pas.
Les GG, les Républicains veulent une commission d'enquête sur les aides sociales. C'est ce que propose le groupe de Laurent Wauquiez à l'Assemblée pour, je cite, « dresser la liste des dérives ». Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Charles?
On ne s'en fout pas.
Flora?
On s'en fout.
Jean-Loup?
On s'en fout pas.
Charles?
Non, je pense qu'ils ont raison. Moi, je suis pour des commissions d'enquête sur toutes les dépenses publiques, sur le modèle de la commission d'enquête qui a visé l'audiovisuel public. Je pense qu'il faudrait en faire sur toutes les dépenses publiques, donc sur les aides publiques, pourquoi pas.
Jean-Loup?
Non, mais la France, c'est 1% de la population mondiale, et par contre, c'est 15% de la dépense sociale mondiale. C'est-à-dire que la petite France, à elle seule, représente 15% de la dépense sociale mondiale, avec en effet beaucoup de dérives, et vous voyez que mon micro qui dérive, et donc avec en effet énormément de dérives, et je pense que une enquête s'impose. Voilà, et qu'il y a un problème avec le modèle social et on n'arrivera pas à faire face aux défis, les défis de la réindustrialisation, défis militaires, défis climatiques, avec une
Quel candidat aura le courage de dire il faut moins dépenser? On dépense un pognon de dingue, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Macron, il va falloir tailler dans les dépenses sociales. Quel candidat Quel candidat pense se faire élire et ensuite pense gouverner
Je suis convaincu que c'est possible, que les Français ont changé de braquet là-dessus.
Non, parce que les Français pensent que ça va pas les concerner. C'est-à-dire que t'es d'accord pour qu'il y ait moins d'alloc, moins d'aide, mais à condition que ça ne te concerne pas, toi.
Mais il y en a plein qui touchent pas d'aide, hein. Moi, je touche pas d'aide.
Oui, toi, mais 60%
touche pas d'aide.
60% des Français,
je touche pas d'aide.
Mais si t'appelles la police, les urgences,
c'est pas de ça dont on parle, c'est pas une aide sociale.
Je me fais jamais rembourser à un médecin.
Ah bon?
Une aide sociale.
Bah, non.
Et puis c'est pas parles du service public, ça n'a rien à voir avec les aides sociales.
T'as une carte vitale.
Mais je vais jamais chez le médecin, j'ai une carte vitale, oui, mais par exemple quand il faut se faire rembourser un truc après, j'oublie tout le temps de le faire, je le fais pas. Je touche pas d'aide. Il y a plein de Français qui touchent pas d'aide. Oui, mais souvent j'ai pas ma carte vitale sur moi. Il y a plein de Français qui touchent pas d'aide.
Tout le monde bénéficie d'un système.
Il faut les respecter quand même.
Qui en ont pas besoin.
Il y a plein de Français qui payent tout plein pot, attention.
Oui, mais là, on veut une commission, mais les rapports, ils ont déjà, les connaît. Il y en a déjà eu des rapports, si tu veux, sur les abus, sur la triche, sur la fraude. Tout ça, on le connaît. Donc, ça veut dire que ceux qui sont au pouvoir, ils n'ont qu'à agir. Ils n'ont qu'à faire ce qu'il faut.
Monique Barbu n'a qu'à agir.
Mais je me souviens notamment du livre de l'ancien magistrat
Charles
Prats, qui avait
cartel des fraudes.
Cartel des fraudes. Il y avait eu des commissions, il y avait eu des auditions. Les montants sont connus. La Cour des comptes a publié des rapports là-dessus.
Et par exemple, il y a quand même un problème, c'est qu'il y a plus de cartes vitales en France que d'habitants.
C'est pour ça qu'ils veulent faire une carte vitale biométrique.
Voilà, oui, c'est-à-dire parce qu'il y a quand même un niveau de fraude qui est hallucinant.
Je pense que Wauquiez veut que les Français prennent conscience du montant des dépenses sociales. Je ne suis pas sûr que les Français, moi, contrairement à ce que dit Charles, je ne pense pas que les Français soient précisément au courant de ce qu'on dépense chaque année en aide sociale, en remboursement de sécu, on rembourse les cures thermales. Vous voyez, il n'y a pas de clim dans les écoles de nos enfants, mais on rembourse les cures thermales.
Ce qui en fait est une subvention dédiée au tourisme.
On fait des choix politiques. Et donc, est-ce qu'il faut continuer à faire ces choix politiques qui privilégient effectivement une France plutôt de rentiers et pas celle qui forme une nouvelle génération?